Par un effet de la divine providence, j'avais été sans aucun danger le distributeur des subventions que me remettait M. Piécourt. Pour m'aider dans ce soin, j'avais fait, comme je l'ai dit ci-dessus, le choix d'un Turc nommé Ali, un des plus honnêtes hommes et des plus fidèles que j'ai jamais vus. Je savais à peu près le temps qu'on envoyait la subvention et j'envoyais seulement Ali, qui allait être Turc au partout sans garde, chez M. Piécourt, qui lui donnait l'argent pour me le remettre, avec une quittance pour me faire signer que lui reportait Ali avec mes lettres pour la Hollande. Mais il arriva que M. Piécourt eut le malheur d'être dérangé dans ses affaires. Ce contretemps fut cause que la correspondance pour nos subventions fut commise à un autre négociant de Dunkerque, nommé M. Penetreau. Ce dernier s'en était acquitté deux ou trois fois avec assez de ponctualité et de précaution, et l'avait fait avec d'autant plus de sûreté et de facilité, comme mon Turc entendait fort bien à faire les commissions dont je le chargeais, et que nous avions d'ailleurs sur la galère un aumônier qui était fort raisonnable à notre égard. Ce mot d'aumônier me fait souvenir de dire ici quelque chose de ceux qui ordinairement sont chargés de cette fonction sur les galères. Ces aumôniers sont des prêtres séculiers de la congrégation que l'on nomme vulgairement de la mission ou de Saint-Lazare. Comme les chefs de cette congrégation avaient eu le secret de se concilier la confiance du roi par un certain air de simplicité et d'intéressement, on redoutait beaucoup à Marseille le pouvoir de chacun de ses membres en particulier. Cette congrégation avait eu pour fondateur M. Vincent de Paul qui, de simple prêtre qu'il était, avait mérité, par la réputation de sainteté qu'il avait su s'acquérir, l'honneur d'être le confesseur de la reine, mère de Louis XIV. Il fut ensuite chargé de faire des missions dans les campagnes pour l'instruction des paysans et du commun peuple. C'est ce qui donna lieu à l'établissement de sa congrégation, qui dans les commencements était peu respectable, mais qui dans la suite s'agrandit et s'établit dans les meilleures villes de France, s'acquit divers privilèges, prérogatives et bénéfices, entre autres, la direction de la nomination des curés de village, des aumôniers des troupes du roi, des navires et galères. Enfin, ses pairs surent si bien s'insinuer en cour que les ministres les regardaient comme des oracles et les jésuites comme des gens qui les avaient dupés et qu'ils ne voyaient plus qu'avec des yeux d'envie et de jalousie. Malgré leur finesse, ils n'avaient pu prévoir cette élévation dont ils avaient été eux-mêmes les principaux instruments. Ils avaient cru, en s'appuyant cette congrégation de leur crédit, grossir seulement le nombre de leurs partisans. Mais les lazaristes avaient de trop bons modèles devant les yeux pour suivre l'institution de leur fondateur. Ils avaient adopté les sentiments des jésuites. Ils en prirent facilement l'esprit. Parmi les ecclésiastiques, l'ambition est une maladie épidémique qui n'affecte que l'intérieur. Aussi, ce fut sous le manteau de l'humilité que nos lazaristes couvrirent leurs vues ambitieuses. Ils le firent avec tant d'adresse que ceux qui les surchargeaient de grâce et de faveur croyaient bonnement avoir triomphé de la répugnance la plus décidée pour les honneurs et l'agrandissement. Ils savaient combien avait servi aux jésuites l'extérieur humble, l'air mortifié et composé. Pour aller plus sûrement à leur fin, ils les imitèrent dans leur maintien et leur habillement, et renchérirent même sur leurs originaux, dont ils se distinguèrent par un collet de grosses toiles blanches, un floquet de poils au menton, et une négligence étudiée, ou plutôt une crasseuse malpropreté, qui, jointe à un certain patelinage, en imposa si bien au public et à la cour qu'ils ont mérité les suffrages de l'un et de l'autre, la desserte des chapelles de toutes les maisons royales, l'administration d'une infinité de séminaires et la possession des biens immenses dont ils jouissent actuellement. Tant il est vrai qu'on arrive souvent avec plus de facilité au but que l'on se propose en feignant de s'en éloigner qu'en prenant les mesures les mieux concertées pour y parvenir. C'est à cette politique que les jésuites et plusieurs autres congrégations sont redevables de leur richesse et d'un pouvoir dont ils n'abusent que trop souvent pour persécuter les pauvres réformés aux dépens de l'humanité et de la religion. Tels sont particulièrement nos lazaristes, qui s'étaient de mon temps rendus si puissants et si redoutables à Marseille que si quelques officiers du roi leur faisaient quelque déplaisir, ils obtenaient bientôt une lettre de cachet qui les mettait en disgrâce. De cette façon, ils étaient si craints et en apparence si respectés que tout pliait sous leur tyrannie. Ces pères de la mission ayant donc, comme je viens de le dire, la direction du spirituel des galères, ils plaçaient les aumôniers, gens comme eux, cruels et persécuteurs des réformés qui s'y trouvaient. Mais notre aumônier était venu à mourir lorsque les six galères passèrent de la Méditerranée dans l'océan. Monsieur de Langeron, à cause de l'éloignement qui le dispensait d'attendre la nomination des missionnaires, et qui d'ailleurs ne voulait pas manquer d'aumônier sur sa galère, prit à Rochefort un moine du couvent de l'ordre des Dominicains. Cet aumônier, dans les commencements, nous faisait tous les mauvais traitements qu'il pouvait. Mais à la longue, il se radoucit et se conforma à la façon d'agir de notre capitaine, qui avait beaucoup changé en notre faveur. aux mauvais traitements que nous avions d'abord eu à essuyer, succédèrent des procédés obligeants pour nous tous, et particulièrement pour moi, surtout depuis que je fus devenu écrivain de M. de Langeron, emploi qui me fournissait souvent l'occasion de converser avec lui. Pendant les 3 dernières années que je restais à Dunkerque, où les galères furent toujours désarmées, il ne se passait presque point de jour qu'il ne vînt sur la galère, où nous passions 1 heure ou 2 ensemble, sans parler de religion, du moins fort peu. C'était un homme savant et bon prédicateur, et comme, par le moyen de mes amis, je recevais souvent des livres de piété, de la Hollande, entre autres divers tomes des serments de feu M. Sorin, il me demanda un jour si je n'avais pas quelques sermons de nos auteurs à lui prêter. Quoique cette demande me parût suspecte, je hasardai cependant d'en lui en prêter, et je débutai par un tome des ouvrages de M. Sorin qu'il me rendit ponctuellement. Il y trouva tant de goût qu'ensuite je lui prêtai tous les livres que j'avais, même les préjugés légitimes contre le papisme de M. Jurieux, qu'il me rendit, ainsi que les autres, avec exactitude. Un jour, dans la conversation, il me demanda si nous autres réformés ne recevions pas de l'argent de Hollande. Je jugeai à propos de lui parler négativement sur cet article, par la crainte que j'avais des conséquences. On verra par la suite de ses mémoires qu'il n'était pas inutile que je m'étendisse un peu à l'égard de cet aumônier.